Alors il est 19h03, je vous propose de commencer donc ce café philo, le dernier en ce qui me concerne pour la saison. Le prochain sera animé donc par Nicolas Guéret en juin. La date exactement, le 14, c'est ça? Voilà, donc le 14 juin. Est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants? Oui, hein? Donc je vais vous rappeler très brièvement les règles du café philo. En fait, on va commencer par proposer des sujets qu'on aimerait voir traités ce soir. Ensuite, il va y avoir un vote. Vous pouvez voter autant de fois que vous voulez pour l'ensemble, enfin pour le nombre de sujets que vous désireriez voir traités donc ce soir. Et puis ensuite, le café philo débute. Donc pour prendre la parole, il suffit simplement de la demander. Nous avons donc des bénévoles qui passent avec des micros. Voilà, la seule chose qu'on vous demandera, c'est de bien parler dans le micro, parce qu'en fait, le café philo est enregistré. Et ensuite, il sera disponible sur le site de Philomania pendant une semaine, et vous pourrez le télécharger, vous ainsi que toutes les personnes qui se connectent sur le site de Philomania. Donc voilà, Françoise va se charger des micros. Alors je vous propose de commencer justement en proposant les sujets que vous souhaiteriez voir traités ce soir. Est-ce que vous avez des idées de thématiques? Non? Oui, madame?
J'ai envie d'aborder la notion de désir, quelle place pour les désirs dans notre vie.
D'accord, oui. Mm-hmm. Quelle place pour le désir dans notre vie. Oui. Oui, monsieur, vous avez une idée?
D'accord. Moi, j'ai pas une idée, mais j'ai trouvé une idée qu'il y avait eu la dernière fois. Je ne sais pas si elle a été abordée. C'est est-ce qu'il y a des guerres justes?
Est-ce qu'il y a des guerres justes?
J'ai vu sur le site qu'il y avait eu cette idée-là. Je ne sais pas si elle avait été abordée, mais je trouve très bien.
Mm-hmm. On avait fait les inégalités. Hein, y a-t-il des inégalités justes? On n'a pas traité la notion de la guerre. La guerre, non. Hein, mais on a fait les inégalités, oui. Donc, y a-t-il des guerres justes? Mm-hmm. Donc, monsieur?
Qu'est-ce qu'être courageux?
Qu'est-ce qu'être courageux? Oui. Madame?
Peut-on vivre sans conflit?
Oui, donc peut-on vivre sans conflit? Conflit. Mm-hmm.
Sommes-nous condamnés à toujours revivre le passé?
D'accord, sommes-nous condamnés à toujours revivre le passé? Mm-hmm. Ça doit faire déjà 5 sujets à peu près. 5 sujets. Hein. Donc, quelle place accorder au désir dans notre vie? Y a-t-il des guerres justes? Qu'est-ce qu'être courageux? Sommes-nous condamnés à revivre le passé? Conflit. Et peut-on vivre sans conflit? Ben, je vous propose de passer au vote. Ça vous va? Alors, quelle place accorder au désir dans notre vie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y a-t-il des guerres justes? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qu'est-ce qu'être courageux ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Peut-on vivre sans conflit ? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il m'en manque un. Sommes-nous condamnés à toujours revivre le passé ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc,
le gagnant, c'est est-ce qu'il y a des guerres
justes ? Est-ce qu'il y a des guerres justes ? Bon, bah, vous laissez commencer. Pour quelle raison ce sujet ? Ou en tout cas, qu'est-ce qui peut-être vous interpelle dans ce sujet ? Vous intéresse ?
Ce qui m'interpelle, c'est bien sûr un peu lié à l'actualité. Alors, en fait, il y a trois choses. La première, c'est que moi, je pensais vivre sans connaître les guerres. Et j'y pensais assez régulièrement, j'étais heureux. Et là, je suis très perturbé. La deuxième chose, c'est que il y a un débat que j'entends autour de moi, donc notamment les amis, il y en a qui disaient bah, « Non, non, il ne fallait pas combattre contre Poutine, il faut refuser les guerres, puisque... » Et on agit après. Et la troisième chose, c'est la réaction des Ukrainiens, et notamment marquée par l'Holodomor, qui dit « De toute façon, si on se bat pas, on est mort, on sera déporté ou supprimé. » Donc je vois pas la guerre, ça c'est pas du côté russe, je fais pas le jugement, mais plutôt du côté ukrainien, les réactions ukrainiennes. Est-ce qu'on doit se rentrer en guerre ou pas, et est-ce que c'est juste de rentrer en guerre par rapport à une agression, etc. Donc je n'ai pas, c'est une question qui me perturbe, plutôt que d'avoir un avis sur le sujet. Donc j'ai, à l'instant présent, j'ai pas d'avis, mais plutôt des perturbations personnelles.
Voilà, d'accord. Donc, effectivement, faire ou non la guerre, là serait toute la question, en fait. Et est-ce que la guerre peut se voir légitimée ? Voilà. Ou est-ce que toute guerre serait, par définition, illégitime ? Est-ce qu'il y a des causes qui justifieraient certaines guerres et d'autres non ? Est-ce qu'il y a de meilleures raisons de faire la guerre ? Voilà. Est-ce qu'on peut hiérarchiser les raisons ? Est-ce que vous voulez réagir sur ce plan-là ? Est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent légitimer une entrée en guerre ou pas du tout ? Ou est-ce que toute guerre est par définition illégitime ? Parce qu'en fait, c'est un peu ça, hein, la question. Hein. À savoir, du coup, qu'est-ce qu'on doit aussi entendre par le concept de justice ? Qu'est-ce que la justice ? Madame ? Voilà. Oui.
Bon, on a l'impression, et ça rejoint ce que disait la personne, est-ce que nous sommes-nous condamnés à être toujours en guerre ? Je pense qu'il faut se poser la question des vraies causes. Et la cause, elle est dans le cœur de l'homme lui-même. C'est-à-dire que ça part toujours d'une volonté de conquête, d'expansionnisme, etc. Ça appartient à notre ego. Donc à ce moment-là, c'est la cause de toutes les guerres. Elle est toujours humaine et dans le cœur. Donc ça demande de se transformer ou de regarder de quoi on est fait, puisque on est le conflit quelque part. Mm-hmm. Voilà. Le reste, ce ne sont que des conséquences.
Alors en même temps, c'est vrai qu'on pourrait dire que la nature humaine est une nature agressive. Et que on retrouverait un peu différents sujets. Hein. Est-ce que nous sommes condamnés à revivre le passé ? Effectivement, si la nature humaine est agressive, ben, la logique des guerres, par exemple, c'est une logique qui n'arrête pas de se répondre et de se reproduire, à la limite, quoi qu'on fasse. Donc il y aurait une forme d'impuissance face à la guerre. Oui ?
Oui, quelque chose m'interpelle aussi à propos de la guerre, en fait. J'avais pas conscience de ça, mais il existe un, si je ne me trompe pas, un droit international qui, il y a des légiférations à propos de la guerre. Donc, comme si on fixait, alors le terme est un peu déplacé sans doute, mais comme si on fixait une règle du jeu.
Le droit à la guerre.
Une aberration. Non, pas le droit à la guerre, mais
le droit de
la guerre avec des règles précises. Alors, oui. S'agissant de la sauvegarde des populations civiles, on peut le comprendre, mais il y a des règles au-delà de ça. J'ai découvert ça. C'est comme, oui, voilà. Oui, par exemple. Voilà. Ouais. Mmh. Ça me paraît.
Ouais. Est-ce que la guerre est toujours nécessairement hors droit? Voilà, c'est ce à quoi voudrait répondre le droit de la guerre. Non, il y a des règles pour faire la guerre. On ne fait pas n'importe quoi à la guerre, effectivement. Ce pourquoi il peut y avoir un tribunal international et on peut effectivement sanctionner des crimes de guerre. Ouais, ça demande réflexion aussi. Alors voilà, s'il y a effectivement des règles, s'il y a un droit de la guerre... et si on les respecte, la manière par laquelle on fait la guerre serait-elle une guerre qu'on pourrait qualifier de juste? Est-ce que ça la justifie? Ouais. Madame, vous vouliez intervenir?
C'est pas tout simple, c'est-à-dire que j'ai l'impression que si on écoute notre cœur, on va dire non à la guerre, je pense qu'on est tous d'accord. Et si on écoute la raison, on rentre voilà, dans peut-être, il faut, etc. Et ça met le doute et ça nous ramène à dire mais qu'est-ce que veut l'homme? Si l'homme veut vivre en paix, il doit faire surpasser cette notion de mal qu'il a en lui, ou de vengeance, de pouvoir, l'atténuer pour devenir un peu plus sage, un peu plus grand, et penser plus à une vraie fraternité et puis vivre en paix. Donc ça veut dire que l'homme il est toujours en devenir un peu plus sage, mais on n'est pas encore à... Et là ça nous démontre qu'on est encore, on a du chemin.
Voilà, il y a de l'apprentissage à faire. Ouais. Alors c'est vrai qu'en même temps, dans la logique de l'agression, on pourrait dire il y a un agresseur et il y a un agressé. Est-ce que la manière de penser la guerre côté agresseur est la même que du côté agressé? Est-ce que toutes les justifications que l'on peut donner pour entrer en guerre sont de même valeur lorsqu'on est du côté de celui qui attaque ou est-ce qu'on est du côté de celui qui se défend? Et ensuite, effectivement, une fois qu'on est sorti de la guerre, comment ne plus reproduire de guerre? Mais il y a peut-être deux niveaux de réflexion, du coup. Il y a celle de l'urgence. Lorsqu'il y a urgence, lorsqu'on est attaqué, est-ce qu'il y a un droit à se défendre? Est-ce qu'il est légitime de se défendre? Voilà. Et c'est vrai aussi, est-ce que ce qui vaut pour des individus, par exemple, on a le droit à la légitime défense, est-ce que ce qui vaut pour des individus, au niveau du droit, vaut aussi pour des États? Est-ce que les États ont aussi un droit à la légitime défense? Donc, le droit de faire la guerre. Ou est-ce que la guerre étant propre qu'aux États et pas aux individus, se pose la question si effectivement toute guerre se justifie ou non. Voilà. Vous vouliez intervenir?
Oui. Moi, je voudrais dire, les personnes, à mon avis, les personnes qui déclarent la guerre, qui prennent la décision de faire la guerre, ne sont pas nécessairement les personnes qui paient les conséquences de la guerre. Donc, le dilemme de faire ou ne pas faire la guerre, je pense que c'est pas pour tout le monde. Ça dépend de notre situation dans la société.
Donc, si on est ceux qui sont effectivement agressés, du côté des agressés ou du côté des agresseurs, on pourrait dire des dominants et puis des dominés aussi. Hein. Il y aurait une logique dominant-dominé. Du coup, est-ce que le dominé a un droit à se révolter, hein? Du coup, voilà, un droit de résistance. Oui, ouais. La question effectivement se pose. Madame?
Est-ce que si on se pose la question de la justesse des guerres, est-ce qu'il ne faut pas vraiment interroger les causes? On a tous un jugement sur les causes qui sont justifiées. Bon, prenons l'exemple de l'Ukraine. Poutine invoque des causes auxquelles on n'adhère pas forcément. Donc à partir de là, comment se faire un jugement?
Quelle valeur accorder aux motifs?
Aux motifs,
aux causes, aux raisons.
Oui. Voilà. La justification qui est donnée par le pouvoir qui est agresseur.
Oui. Madame?
Il ne faut surtout pas perdre de vue qu'il faut légiférer sur la façon d'attaquer physiquement des gens. Enfin, je veux dire, ça se pose là, quel que soit le conflit. Parce que le recours à la force aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment légitime ? C'est-à-dire d'aller éliminer des gens, voilà.
Oui.
En fait, on continue à intellectualiser, puis à donner des tas de raisons à ça. Mais c'est déjà insupportable de tu ne tueras point, quoi. Et en fait, on ne l'a jamais respecté, ce truc-là.
Oui, oui, oui.
C'est pour venir aux fondamentaux, quand même. Hein. C'est-à-dire que nous, ça ne nous étonne pas de déclarer. Et on voyait bien dans les grandes guerres, ça n'étonnait pas les gens. Ils ne se rendaient absolument pas compte qu'ils étaient en train de déclarer une guerre à des gens qu'ils allaient éliminer, quoi. Mm-hmm. Pour eux, c'était normal. Enfin,
ouais.
Et je crois que c'est cette prise de conscience qu'il faut faire un jour.
La distinction entre le politique et la morale. Ouais. Ouais. Mmh.
J'ai un peu raté le début, donc j'espère que je vais pas dire des choses qui ont déjà été dites. Du coup, il y a plusieurs formes de morale, il me semble, avec morale plutôt antique, morale déontologique sur justement tu ne tueras point, et puis morale utilitariste.
Mmh.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui on a plus une vision utilitariste où bon, bah, ceux qui font la guerre, à partir du moment où ils gagnent, bah, c'est bien pour eux dans leur logique. C'est pas du tout ce que je défends. Moi, j'ai tendance à voir ça plutôt comme un échec de la communication, mais j'avais un ami qui m'avait donné cet argument de entre deux civilisations, il y en a une, elle est très développée culturellement, scientifiquement et tout ça, enfin très très élaborée, mais à côté de ça, il y avait l'autre civilisation à côté qui n'était pas forcément aussi développée. Par contre, ils étaient guerriers et du coup, à un moment, ils sont partis en guerre, ils les ont écrasés, ils ont gagné. Donc finalement, la culture, ça les a pas sauvés, quoi. Et j'arrivais pas à accepter cette idée, mais en même temps, j'avais pas de contre-argument à lui opposer. Donc, je sais pas si vous en avez.
Sparte contre Athènes, par exemple.
Par exemple.
Est-ce que la sculpture peut permettre de lutter contre les javelots spartois ? C'est sûr que ça. Les armes ne sont pas à égalité. Ouais. Est-ce que la culture sauve ? Oui, ça peut être une question. Donc, de ce point de vue, on pourrait dire effectivement que la culture ne protège pas, parce que je crois que c'est une question de là aussi d'être attaqué, hein, dans l'exemple que vous donnez. En même temps, d'un autre point de vue, je crois que la question qui s'est posée au XXe siècle, c'est est-ce que c'est pas la culture qui nous a amené justement à une logique véritablement dramatique, voire génocidaire. Ça a été la grande question qui a été posée autour de l'Allemagne. Hein. Comment l'Allemagne, ce pays d'une culture si extraordinaire, a pu justement tomber dans le nazisme. Voilà. Ouais. Donc, oui.
Oui, là on parle beaucoup de guerres liées à des notions de territoire, d'État. Mais il y a aussi des guerres liées à la possession des biens, à la thésaurisation. Mm. Je pense à la guerre du feu, quand les biens ne sont pas partagés.
Mm. Donc la guerre, en fait, se fonderait sur une logique de propriété privée et d'accumulation du patrimoine. Oui, oui, oui. Alors, j'ai envie de dire, on serait totalement dans une pensée de type rousseauiste. Hein. C'est-à-dire le drame en fait de l'humanité, c'est quoi ? C'est lorsque le premier homme a encerclé un lopin de terre et a posé donc un panneau écrivant « Ceci est à moi ». Le drame, donc cette appropriation d'un lopin de terre, c'est-à-dire la mise en place d'un bien, la possibilité d'avoir un bien à soi, donc de l'accumulation effectivement de capital ou de patrimoine ou de territoire, ferait que les humains en viendraient à développer des logiques conflictuelles, hein, et de conquête. Ce qui voudrait dire, dans une logique de Rousseau, que l'homme n'est pas naturellement agressif. Ce qui est le grand agressif, c'est justement un certain nombre de conditions mises en place par la société, dont la capacité qu'on peut avoir de s'approprier les choses, qui font que face à la rareté, face à l'envie, face au désir d'avoir ce que l'autre a, effectivement, ça développe des logiques de violence et d'agression au sein des individus.
Et pour revenir à la culture, c'est une boutade, j'avais un prof de théâtre qui disait « Ne cultivez pas les salauds, ils vont encore être pires ».
Voilà. Ouais. Et en même temps, je sais, ouais, c'est une vraie question, ça. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que la sagesse ne vient pas aussi par la culture ? Est-ce que la culture ne peut pas sauver aussi du fait d'être ou de devenir un salaud, quoi. Hein, sommes-nous ancrés dans notre essence?
Ouais, mais oui, mais c'est un peu grave, parce que pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la culture, elle est censée élever les gens. Oui. Donc si elle aboutit au massacre, c'est juste un échec de la culture. Oui. Alors ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, avant que l'homme possède le premier homme, et c'est super intéressant ce que monsieur a dit, c'est que pourquoi le premier homme a eu envie de posséder quelque chose? C'est forcément parce qu'il a eu une peur qu'on lui pique. Mmh. Donc il vivait déjà en essence le prochain comme un potentiel ennemi. Et c'est comme ça que s'est construit l'ego derrière. C'est-à-dire en envisageant dès le départ que le concurrent en face est un ennemi. Et tout le reste s'est construit autour de ça, en fait. Donc la possession, le fait de diviser tout, et puis de se protéger, tout le reste a suivi. En fait, c'est structurel, hein.
Voilà. Et en même temps, Rousseau dit, faites attention, par exemple, entre conflit et guerre. Voilà. C'est-à-dire, on n'a pas affaire à la même chose. Le conflit est interindividuel. Je peux ne pas m'entendre avec quelqu'un, je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, je peux avoir une logique même agressive envers quelqu'un, mais ce n'est pas une logique de guerre. Ce qui veut dire que pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait des États. Et pour qu'il y ait des États, on revient sur cette idée d'appropriation d'un territoire, il faut effectivement que une partie de la terre soit la propriété d'une entité qui s'appelle État. Et à partir de ce moment-là, seuls les États peuvent se faire la guerre. Donc d'une certaine manière, si on remet en cause la propriété privée, il faudrait peut-être aussi aller jusqu'au fait de remettre en cause l'existence même des États. Et c'est ce qui fait que certains justifient le fait de ne pas entrer en guerre contre Poutine ou contre la Russie, enfin l'URSS, la Russie. Pour quelle raison? Parce que en fait, ça serait re-rentrer dans ces logiques étatiques qui font que ce ne sont pas les peuples qui se font la guerre, ce sont les États. Et donc on est soumis à la domination de l'État lorsqu'on est dans une logique de guerre. Voilà. Donc effectivement, le pacifisme se justifie aussi des fois comme une volonté de désinvestir l'État de ce pouvoir justement de faire la guerre. Et donc de tuer des populations. Oui.
Oui, je suis d'accord. Il faut avoir des États, mais aussi les armées. Et parce que pour faire la guerre, il faut avoir les armées et il faut avoir les armes.
Oui.
Il faut avoir les moyens.
Oui.
Donc si une société investit beaucoup en reproduire des armées et des armes, c'est avec un objectif.
Oui. Et puis, on parle de guerre. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on la définisse, la guerre. C'est qu'ici, très clairement, on est dans une logique de guerre militaire, mais il y a aussi la guerre économique. Et le problème de l'armement, c'est quand même qu'à un moment donné, produire des armes, ça crée de l'emploi. Vendre des armes, ça peut être extrêmement rentable, mais comme toute chose, pour que le système fonctionne, encore faut-il les consommer, les armes. Et donc, comment voulez-vous les consommer? À un moment donné, il faut bien faire la guerre. Et plus vous faites la guerre, plus vous détruisez d'armes, donc plus il faut en produire, et vous permettez à la machine capitaliste de continuer à se nourrir d'elle-même, quoi. D'où le problème de la démilitarisation qui avait été abordé, j'ai envie de dire, à l'apogée de la guerre froide. Est-ce qu'il faut démilitariser? Si on veut la paix, à un moment donné, il faudra bien accepter de ne pas produire d'armes. Parce qu'effectivement, dès qu'on a une arme à disposition, il y a plusieurs facteurs qui nous incitent à l'utiliser. L'envie, la jalousie d'un côté, mais de l'autre côté, le fait aussi qu'il faut faire tourner un système économique qui fonctionne et qui s'enrichit beaucoup sur le trafic d'armes.
Mmh. Oui, je pensais à d'autres formes de guerre, parce que là on parle d'armes, on parle de victimes, mais il y a toutes les formes de guerre de communication. Aujourd'hui, les guerres informatiques, il y a psychologique, oui, tout ce qui se passe et qui prend une place de plus en plus importante et sur les populations qui a un impact considérable.
Et c'est là où on pourrait peut-être revenir au problème de la légitimité de la guerre. Parce que aujourd'hui, quand on parlait des motifs ou des raisons de faire la guerre, on voit bien qu'effectivement la légitimité ou non de la guerre va passer par une guerre des médias, une guerre de l'information. Qui va réussir à convaincre au mieux, j'ai envie de dire, la population mondiale, que le point de vue qui est le sien est le point de vue le plus juste et le plus légitime. Donc, est-ce qu'on n'en revient pas à un pouvoir de la rhétorique, avec un pouvoir très fort de la rhétorique, hein. On peut penser par exemple à Donald Trump et à toutes ces logiques de fake news, où c'est pas parce que l'information est vraie qu'elle a un impact. Le but, c'est qu'elle ait un impact. Et après, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fraude, pour le coup, on est dans une logique conséquentialiste. Il faut que ça marche, il faut que ce soit efficace, il faut emporter l'adhésion de la population. Et à partir du moment où vous avez l'adhésion, vous pouvez partir en guerre. Donc la guerre, elle est peut-être et avant tout d'abord une guerre de l'information. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Ah. Oui,
en fait, sur la question, il y a justification. Quand vous parlez de justification, ça peut être a posteriori ou en même temps. Mais c'est quelque chose pour donner la raison de. Mais la guerre juste, elle n'a pas forcément besoin de raison. C'est pour ça que, en vous entendant, moi je suis perturbé parce que. Pour moi, en fait, une guerre peut être juste. C'est-à-dire que si. Alors, on parlait tout à l'heure de domination ou de. Ou un effet de peur, en fait, c'est une réaction à titre individuel. On peut réagir vis-à-vis, par exemple, d'un chien qui attaque, on va réagir, ou qui est quelqu'un d'agressif, à l'échelle de plus de personnes, ou à l'échelle d'un État ou d'un peuple, réagir parce qu'on est asservi, parce que. Donc, à un moment donné, il n'y a plus d'autres moyens, potentiellement, que de faire la guerre, sinon, c'est la mort, soit par génocide, soit par autres méthodes diverses et variées. Donc. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être juste, en fait, une guerre. Enfin, ça me donne l'impression de quand on n'a pas d'autre solution et qu'on se trouve dans une situation d'asservissement, voire d'être proche de la mort de soi ou de son peuple ou de son identité ou de sa culture, limite, Poutine, quand il justifie sa guerre, il dit, ben, on est, en fait, l'Empire russe est en train de finir, comme Erdogan... À un moment donné, sur l'Empire ottoman, il dit bah, « L'Empire ottoman a été massacré, il faut qu'on le retrouve, etc. etc. » Et donc, ils se mettent dans des logiques d'agressivité parce que c'est la survie de leur modèle.
Mais peut-être qu'on ne parle pas de la même chose, justement. Et c'est peut-être ça qui va permettre de distinguer justification et justice. Parce que toute justification... peut être efficace, elle peut être conquérante, elle peut effectivement convaincre, mais c'est pas pour autant qu'elle est juste. La justice que demande-t-elle peut-être de revenir au corps, justement. C'est-à-dire, dans un cas, pour reprendre vos propos, on parle de déclin d'une civilisation, dans l'autre cas, on parle de la survie physique et mentale d'une population. Donc je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Là encore, qu'est-ce qui justifierait le fait de faire usage de violence ? Parce qu'en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui justifierait le fait de faire usage de violence ? Simplement l'idée que je défends le droit naturel qui est le mien à vivre. Voilà. Et là, on ne parle pas de civilisation, on ne parle pas... Enfin, voilà, il y a une agression qui m'est portée et qui fait que, face à cette agression-là, effectivement, le choix, c'est quoi ? C'est soit de se battre, soit de mourir. Alors, quand on se bat, on meurt. Ou en tout cas, il y a le risque de la mort. Mais dans l'autre cas, la mort, elle est là de toute façon. Donc, face à ça, quelle est la solution ? Et là, on retrouve l'idée de courage. C'est-à-dire, effectivement, le courage... la question, elle est peut-être simplement, comment mourir ? Est-ce que l'on meurt sans combattre ou est-ce que l'on meurt en combattant ? Voilà. Et donc, à partir de là, la question est, qu'est-ce qu'un homme, quoi ? Voilà, c'est-à-dire, elle est où la dignité humaine ? Qu'est-ce qu'on fait pour assurer sa dignité humaine ? Voilà, est-ce qu'on meurt debout ? où est-ce qu'on se laisse massacrer. Et j'ai envie de dire, la question, du coup, elle est aussi renvoyée au spectateur. C'est-à-dire, on pose la question d'une guerre juste, mais on pourrait aussi poser la question, est-ce qu'il y a une non-intervention juste ou pas ? C'est-à-dire, le spectateur, c'est pas parce qu'il n'intervient pas qu'il est neutre. La neutralité est aussi une forme d'engagement. À partir de ce moment-là, est-ce que voir les autres massacrés sans rien faire, est-ce que c'est une position juste ? La justice, j'ai envie de dire, elle se dispatche, elle se répand, elle interpelle tout le monde. Elle n'est pas simplement entre les deux protagonistes. Elle est aussi autour de ceux qui entourent ces protagonistes. Tout à fait, oui.
Si on ramenait le conflit à une altercation entre individus, la personne qui assiste sans réagir se pourrait être condamnée pour non-assistance à personne en danger.
Oui,
alors évidemment, il ne s'agit pas de retrousser ses manches et de rentrer physiquement dans la personne qui est là, mais ne serait-ce que appeler des secours, enfin, etc. Il y a différentes manières de réagir. Alors après, est-ce que c'est transposable au niveau des États ? Bon, ça, c'est la question. Mais j'aimais bien l'intervention tout à l'heure de madame qui disait que finalement, ce sont les dirigeants qui prennent les décisions et les peuples, plus ou moins, suivent. C'est vrai que des dirigeants peuvent avoir des projets. Alors, ils vont essayer de les faire passer auprès de leur population, comme, par exemple, M. Poutine fait très bien passer son projet auprès de sa population. Ainsi que pour tous ceux qui sont en réaction face à la suffisance européenne, américaine, etc., c'est-à-dire les pays d'Afrique et d'Asie, puis les Chinois aussi sont très contents. Mais bon, je ne sais pas si c'est transférable. Voilà.
Alors, il est clair que la politique, c'est pas que de la morale. Et dans la politique, il y a des relations d'intérêt. Et donc, à un moment donné, ce que je peux juger en tant que dirigeant étatique comme étant peut-être immoral, peut totalement être bénéfique à mes intérêts personnels. Donc, c'est un échiquier, c'est un jeu d'échecs aussi, la politique. Donc, effectivement, il faut peut-être mettre des limites à l'horreur. Et donc instaurer un droit de la guerre, c'est-à-dire on ne fait pas n'importe quoi lorsqu'il y a guerre. Il y a des crimes de guerre, on peut commettre un crime contre l'humanité. Le tribunal international de La Haye a été mis en place en 2002, justement, pour asseoir ce principe. Maintenant, les choses sont compliquées. Effectivement, un individu a le droit à la légitime défense. C'est-à-dire, à partir du moment où on m'attaque, j'ai le droit de défendre ma vie. Et donc, si on m'agresse et que je tue la personne qui m'agresse au moment où elle m'agresse, mon acte est non seulement légitime, mais non condamnable. Si elle met ma vie en danger. Si elle met ma vie en danger, c'est ça la chose. C'est-à-dire, ce qui porte atteinte à ma vie, c'est là où on voit qu'on est vraiment dans du corporel et dans du physique. À partir du moment où ma vie est en danger, et non pas à partir du moment où j'interprète que, effectivement, ma vie puisse être en danger, notamment, par exemple, une vie de civilisation, par exemple, parce que les civilisations ont une existence, mais ma vie physique, biologique, physiologique, inscrit en moi un droit naturel. J'ai naturellement le droit de me défendre parce que j'ai ce droit naturel est inscrit dans mon existence et fait que parce que je suis, j'ai le droit d'être, simplement. Et personne ne peut m'enlever ce droit-là. Et donc, si on veut me l'enlever, si on veut m'asservir, si on veut m'aliéner, je pense par exemple à la condition de l'esclavage, j'ai un droit à la résistance. J'ai le droit de me révolter. J'ai le droit de m'organiser en groupe et de mettre en place une révolution, de renverser la logique de domination. Alors c'est vrai que logiquement, renverser les logiques de domination, c'est pas pour en mettre une autre en place. logiquement. La compréhension d'une situation doit nous permettre justement d'améliorer le sort de la condition humaine. Et ce qu'on peut quand même espérer, c'est que, à une violence effectuée, une autre puisse y répondre de manière légitime, et cette autre réponse, ça doit être celle du droit, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et c'est ce qui tente à être mis en place, c'est-à-dire à l'agression militaire, est-ce que l'on doit, au XXIe siècle, répondre par une, j'ai envie de dire, une escalade de la violence en répondant militairement. Parce que la guerre, en fait, depuis Clausewitz, on le sait, la guerre, elle est sans limite. À partir du moment où vous déclenchez une guerre, en fait, vous ne maîtrisez plus le processus. On rentre dans, voilà, on veut la régler, mais la guerre, par définition, elle déborde toute règle. Donc, à un conflit armé, est-ce qu'il ne faut pas justement répondre du point de vue du droit, mais d'un droit qui soit à l'heure d'aujourd'hui international, c'est-à-dire une réponse mondiale. C'est ce qui a été tenté. Et autre point, est-ce que à toute guerre que l'on estime injuste, on se doit de répondre là encore militairement? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi de rentrer dans une guerre autre qui ne tue pas? Et là, la guerre notamment économique. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue dans le conflit actuel, c'est qu'on est en train un peu de changer les normes, de changer le logiciel. Que disait Rousseau ? Rousseau disait « les guerres ne se font qu'entre des États ». Et donc il n'y a pas de guerre entre individus. En d'autres termes, la guerre ne touche pas la société civile. Elle est politique. D'accord ? C'est une décision politique qui demande à être réglée politiquement. Or, aujourd'hui, on assiste à quoi ? On assiste au fait, justement, que les États, c'est-à-dire les politiques, sont très très mal à l'aise avec la situation actuelle. Et les premiers qui ont à réagir, c'est la société civile. Et une société civile internationale. Et ils ont agi d'un point de vue économique. C'est-à-dire, ils ont dit, ben, c'est simple, nous, société civile, on est fait pour faire des échanges, notre base, c'est le commerce, ben, on ne fait plus de commerce. Et donc, tout d'un coup, il y a quand même quelque chose qui rentre en jeu, c'est-à-dire, effectivement, les États décident et les peuples suivent. Les peuples, ce sont aussi des citoyens qui peuvent se penser sur un mode cosmopolitique, c'est-à-dire citoyens du monde. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas parce qu'on me commande que je vais suivre. Ce n'est pas parce que mes États ne prennent pas de décision que moi, je ne fais rien. Et non seulement dans mon pays, mais à l'international. Et là, peut-être que les logiciels, aujourd'hui, sont en train de changer. C'est-à-dire, effectivement, la justice, elle va se penser, mais peut-être plus simplement entre des États, mais vraiment, la justice, soit elle est mondiale, soit d'une certaine manière, elle n'est pas. Et ce que nous faisons ici ne peut pas simplement s'arrêter à nos frontières. Ce que nous faisons a des impacts sur les populations autres et ailleurs. Et nous avons aujourd'hui le devoir d'en prendre, de devenir responsable des conséquences de nos actes parce que nous avons l'information. Nous savons, on ne peut plus dire « on ne savait pas ». Aujourd'hui, c'est pas possible. Vous ouvrez vos chaînes de télévision, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, qu'elles soient ce que vous voulez, il y a quand même quelque chose qui se passe. Ça, c'est le premier point. Second point, il ne dépend que de nous de chercher la valeur des informations qu'on nous communique. C'est-à-dire, ça nous renvoie à notre propre responsabilité individuelle. Oui. Oui. Oui, oui.
Moi, je voulais dire deux choses. C'était par rapport au contexte dans lequel apparaissent les conflits, peut-être plus conflits individuels, mais dans les sociétés, quand on voit les manifestations et jusqu'aux guerres civiles, la révolution et tout ça, il y a déjà une instabilité sociale qui est mise en place au point que ça devient difficile de pouvoir évaluer moralement si agir, entrer en conflit est juste ou pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu dans cette situation-là où on ne sait plus trop si c'est juste ou pas d'être pour ou contre. Enfin, ça devient assez difficile. Et je pense parce que justement, on a un espèce d'état limite qui fait que ça devient difficile, en fait, de savoir parce que c'est instable. Et le deuxième point, par rapport à ce que vous disiez sur si on en revient au corps et au fait qu'on est attaqué directement en tant qu'individu, je me demandais par rapport à la notion de peut-être de corps social, où on n'est pas attaqué directement, mais en tant qu'identité collective, et que le fait que, je sais pas moi, des gens de mon pays se fassent attaquer, est-ce que ça ne veut pas dire que soit il y a une dégradation de ma condition, des conditions collectives, ou soit je pourrais être attaqué plus tard. Donc qu'il y ait un espèce de décalage où ce n'est pas directement en tant que corps physique qu'on se fait toucher, mais symboliquement du coup. Et donc qui serait aussi une forme d'agression qui justifierait une réponse guerrière peut-être ou agressive.
Ouais.
Pardon, je reviens à la société civile. Il ne faut pas oublier que la guerre 14-18, ce qui a mis fin à la guerre, c'est pas... sur le terrain, c'était gelé, les positions. C'est le blocus économique, les femmes qui manifestaient en Allemagne, parce qu'il n'y a plus rien à manger. La fin de la guerre d'Afghanistan, c'est les mères qui ont manifesté à Moscou et dans toute la Russie quand elles ont vu les cercueils arriver. Ce qui a mis fin à la guerre d'Afghanistan. C'est pour ça que les cercueils, en ce moment, ils sont en Biélorussie, ils ne sont pas en Russie. Non, c'est le point de la société civile.
Je rebondis par rapport à ce que disait la jeune fille. Il y a une guerre qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus énorme, et qui est en train de détruire l'être humain, c'est la manipulation de tout le monde, des esprits, tout azimut, que ce soit les médias, l'économie, la politique. Les gens ne savent plus où ils en sont du tout. Et on légitime des trucs affreux parce qu'on est manipulé dans nos esprits. Et ça, c'est l'autodestruction de la race humaine. C'est beaucoup plus grave.
Oui, ce pourquoi je pense l'information a du bon, parce que en même temps, elle crée des liens, mais elle demande une vigilance absolument certaine. Alors, je pense aussi que, du coup, ce qui fait peur et ce qui angoisse, c'est que lorsqu'on ne vivait pas de situations globalement, il y a les guerres et autres, lorsqu'on ne vivait pas de situations monstrueusement compliquées ou difficiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir du moment où on n'avait pas à se situer, à partir du moment où on n'avait pas à s'affirmer, à partir du moment où la routine quotidienne, je me lève, je vais faire mon métier, j'ai mon utilité au sein du corps social, je rentre, enfin, vous voyez, cette facilité de l'existence ne me demande pas de choisir, elle ne me demande pas de me positionner, elle ne me demande pas, du coup, de penser aussi, de penser au monde dans lequel je vis et à la manière par laquelle je veux aussi que ce monde continue à évoluer ou pas. Voilà. Et ça me demande aussi, du coup, d'être au clair avec les valeurs que je vais incarner, qui peuvent être des valeurs altruistes, mais qui peuvent aussi être des valeurs fondamentalement égoïstes. Voilà. Je pense, par exemple, sur les logiques écologiques. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà. Et partout, la question, c'est peut-être pas qu'on sait pas, c'est que, du coup, la somme d'informations qui nous est donnée face aux conséquences dramatiques qui sont celles qui sont en train d'être développées dans le monde, se termine au final, non pas par une réponse, mais par une question. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, maintenant, il faut répondre. Et ça, c'est angoissant, hein. Là, ça génère de l'angoisse. Et je pense que c'est l'angoisse, elle n'arrive pas à trancher. L'angoisse, elle reste dans cette espèce de micmac, de ventre mou du décisionnisme, là, où tant que je ne me sens pas véritablement peut-être en première ligne et en danger, c'est-à-dire tant que je n'ai vraiment pas à décider, ben, qu'est-ce que je fais? Surtout qu'on ne me demande pas de décider, quoi. Surtout. Et donc, on vit une époque qui est celle-ci, et c'est vrai que les questions nous viennent de tous les côtés. c'est-à-dire le problème écologique, eh ben, il faut accepter de le regarder en face, la fracture sociale des sociétés avec des logiques aujourd'hui d'inégalité de plus en plus importante, une fracture sociale de plus en plus importante, avec des éruptions, j'ai envie de dire, de révolte sociale de partout, où on a l'impression qu'on est sur une cocotte minute et qu'on éteint chaque geyser qui émerge. On ne sait pas d'où, du reste, on ne sait pas où ça va sortir la prochaine fois, quoi. Voilà. Et ben c'est voilà, ça demande d'être regardé en face. Ça demande d'être pensé. Ça demande qu'il y ait des actions. Problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là aussi, il y a une telle pluralité des justifications possibles sur un certain nombre d'actions qui se pensent toutes comme légitimes, que là aussi, ça demande à devoir penser. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ça demande qu'on prenne le risque de se tromper en pensant. Voilà. Peut-être qu'on va mal penser. Et il y a toujours une conséquence. C'est-à-dire, effectivement, si je pense mal, l'avenir le dira, et je ne pourrai pas dire que c'est pas moi qui ai pas pris cette décision-là. Donc je devrais assumer le fait d'avoir mal pensé. C'est angoissant.
Je repense au conflit européen actuel, et j'ai l'impression que la plupart des populations européennes sont du côté de l'agressé. Même si M. Poutine lui prétend que c'est en prévention d'une agression qu'il est intervenu. Mais à long terme, parce qu'on peut craindre que ce conflit dure plusieurs mois, s'enlise, peut-être que les populations civiles, dans notre pays en particulier, peut-être moi aussi, on trouvera que l'Ukraine, c'est quand même relativement loin, 3000 km après tout, c'est loin. Et revenons à des préoccupations plus terre-à-terre, d'autant plus que le conflit provoque une crise économique indéniable. Donc on peut penser que des populations, peut-être un petit peu manipulées, se diront qu'après tout, le conflit entre M. Biden et le leader chinois via M. Poutine, peut-être tout ça c'est bien loin, et puis qu'on n'a pas assez à s'en préoccuper, qu'après tout ce marché des armes en situation qui va nous permettre de vendre davantage d'armements, le César, etc., d'autres c'est les drones turcs et tout ça, peut-être qu'on voudra peut-être à un moment donné tourner le dos à tout ça et revenir à notre petite gamelle, quoi.
Alors ça me fait totalement penser à Pilate. Il y a le problème, et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je m'en lave les mains, et après moi le déluge. C'est vrai, et l'humain a une capacité à oublier qui est absolument extraordinaire. La seule difficulté, je crois, c'est que quand ça se passe en Afrique, il y a quand même la Méditerranée. Bon, hein, voilà, quand même, hein, ça protège. Là, le problème, c'est que ça se rapproche. C'est sur le territoire européen. Et c'est toujours pareil, hein, c'est que je le veuille ou non, eh ben, nous vivons sur le sol européen. Je ne suis pas du tout convaincue, par exemple, que pour un Américain, ce qui se joue aujourd'hui est exactement la même incidence psychique pour eux que pour nous. Voilà, je pense pas. Pour un Australien, pareil, hein. Je pense qu'il voit ça de loin, et effectivement, ça n'interroge pas comme ça nous interroge. Si on en parle ce soir, quelle en est la raison? C'est parce que non seulement c'est à nos portes, c'est-à-dire aux portes de l'Europe, mais on sait pertinemment que si on avance un peu en Europe centrale, ben on a quand même eu la Yougoslavie, hein, avec la Serbie, la Grande Serbie. C'est-à-dire les justifications utilisées aujourd'hui pour mettre en place une guerre de conquête, elles ont déjà été utilisées bien après la Seconde Guerre mondiale, et on sent que ça parcourt le sol de l'Europe. Voilà. Voilà. Et ce pourquoi on aimerait tellement s'en laver les mains. Tout le monde aimerait s'en laver les mains quand les premières bombes sont tombées. Tout le monde s'est dit, c'est pas possible, quoi. Non, mais il l'a fait quand même, quoi. Parce que tout le monde voulait s'en laver les mains. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on y est. Et j'ai presque envie de dire qu'on le veuille ou non, parce que les conséquences sont pas simplement économiques. On sait aussi qu'elles seront idéologiques. On sait aussi que ce sont des décisions politiques qui vont devoir être prises concernant nos propres États. Et ces décisions politiques, nous, on est en train de voter. C'est-à-dire, le peuple ne peut pas s'en laver les mains. Voilà, et c'est vrai dans toutes les démocraties européennes. Et l'Europe, l'Europe, enfin la communauté européenne, c'est un système de démocratie. Donc ça touche l'ensemble des citoyens européens. Voilà. En plus du problème du gaz et du pétrole. C'est-à-dire, quelle Europe pour demain ? C'est-à-dire, même si ces questions-là, on aimerait ne pas avoir à s'en préoccuper, on sait confusément que de toute façon, un jour, on aura à les regarder en face. Chacun à notre place, et très certainement pour des raisons différentes. Mais c'est pour ça que ça chamboule, c'est pour ça que ça perturbe, c'est pour ça qu'on ne sait pas, c'est pour ça qu'il faut penser la question, c'est pour ça qu'il faut tenter de voir à peu près justement les choses, pour pouvoir agir avec justice. Mais c'est pas simple, hein. Quelle est la perspective juste, quel est l'idéal de justice qu'on veut mettre en place. Encore une fois, la politique, c'est pas de la morale. Il y a quand même aussi des rapports de force, parce que ce sont ces rapports de force-là qui nous permettent de nous laver les mains. Quand on n'a pas de rapport de force, quand on est le faible, fondamentalement faible, mais on sait bien que la politique ne fera pas de quartier, quoi. Donc, pour pouvoir s'en laver les mains, il faut quand même avoir un certain équilibre des forces qui permettent justement de ne pas devenir le prochain sur la liste, comme on disait. Oui.
Excusez-moi, j'ai une petite réflexion à dessous. D'abord, juste pour les États-Unis, à l'heure actuelle, il y a un truc particulier sur les États-Unis, c'est qu'ils sont gagnants de tous les côtés, parce qu'ils ils vendent du GNV à la place du gaz, ce que Trump essayait de faire déjà depuis longtemps. Ils vendent des armes, mais surtout ils font de la pub pour vendre encore plus d'armes plus tard. Ça se passe pas chez eux, c'est nickel. Enfin bon. Mais derrière le combat dans lequel ils sont rentrés, parce que c'est le seul à se battre réellement, d'être très impliqué, c'est peut-être un combat de démocratie. Donc au-delà de qui vont gagner beaucoup de sous avec ça, et c'est peut-être un combat légitime, un peu à la George Bush quand il voulait ramener la démocratie en Irak. En fait, je voulais aborder un autre point sur cette question de juste. Je suis un peu perturbé parce que je reprends un truc, je ne sais pas si c'est Bourdieu ou Foucault qui disait qu'on fait une société de perdants. Et qu'en en fait, on est dans un jeu perpétuellement. On fait dans une société où il y a toujours des combats à l'école, en sport. Donc c'est pour ça qu'on ne crée que des perdants. À l'école, on crée beaucoup de perdants aussi. Dans les cours. Pardon ?
Bourdieu.
C'est Bourdieu, voilà, merci. Donc je suis lequel des deux. Et en fait, on est dans un système où l'humain a besoin sans arrêt de combattre, de se battre, etc. Et comme les dirigeants, ils n'ont pas de ring de boxe pour se rencontrer entre eux, ils le font à une autre échelle. Ils ont besoin aussi de se battre, surtout ceux qui sont plutôt en autarcie. Mais que globalement, il n'y a même plus de question de dire si c'est juste ou pas juste. C'est même pas une question. C'est qu'en fait, l'humain est en train de se battre. Et quand c'est à une autre échelle, ça provoque des guerres. Et que naturellement, il y aura toujours des guerres parce que l'humain, en fait, est câblé comme ça. Alors, la dernière fois, il y avait eu un débat, là, il y a quelques mois, sur justement la justice et la citoyenneté, enfin, l'État qui permettait de faire des trucs. Mais ça, c'est au niveau de citoyens, une petite échelle. Il n'y a pas de citoyenneté mondiale. Ça n'a jamais été construit. C'est pas l'ONU qui est une citoyenneté mondiale. C'est juste un arrangement entre États qui discutent. C'est une grande assemblée. C'est pas une citoyenneté des États. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on est condamné à avoir toujours des guerres et que la question de justesse ne se pose même pas, parce que c'est un état naturel de l'humain de se battre, comme ça se fait en sport, comme ça se fait entre deux sociétés qui sont sur un contrat, qui se battent en fait. D'ailleurs, le terme, c'est toujours attaque, défense, c'est le même vocabulaire que visiter.
Oui. Là, peut-être qu'on peut revenir sur cette idée-là, c'est-à-dire il y a deux façons d'aborder la chose, c'est-à-dire soit effectivement la conflictualité elle est inhérente à la nature de l'homme et donc les sociétés ne font que refléter ce qui est de l'ordre de notre nature, soit c'est parce qu'on éduque sur le mode de la compétition que l'on crée en fait une conflictualité. En faisant naître du ressentiment, énormément de ressentiment. C'est Cynthia Fleury qui a travaillé sur cette idée de ressentiment qu'on trouve chez Nietzsche, c'est-à-dire l'humain devient fondamentalement agressif, violent, envieux et porte une haine à son prochain parce qu'on génère du ressentiment. Donc j'ai envie de dire assez simplement, changer les structures sociales et notamment les structures éducatives, et vous changerez l'homme. Oui. Est-ce que vous avez un micro ?
Oui, moi
je
viens. Voilà. François, est-ce qu'elle a demandé la parole ?
Non, mais... Ah, d'accord.
Non, c'est par rapport à ce que disait monsieur. Oui. C'est de dire qu'il y a quand même des pays qui sont neutres. Mm. Et ce que ça rebondit sur ce que tu disais, c'est quand même les pays du Nord. Oui. Qui ont un autre type d'éducation et qui n'est pas fondée sur la compétition.
Oui.
Donc c'est quand même intéressant aussi à noter. Et puis moi je suis très réservée sur les États-Unis qui se battent pour la démocratie. Je pense qu'ils se battent d'abord pour leurs intérêts économiques, mais bon ça c'est ma position. Et bon voilà, donc c'était ça. Mais je pense qu'il y a d'autres cultures qui n'ont pas cette volonté de toujours être dans la compétition continue, et c'est vrai que ça peut venir de l'éducation. Voilà.
Alors c'est vrai que l'entrée des États-Unis sur la logique démocratique pose quand même un souci aux démocraties, c'est-à-dire est-ce que les démocraties doivent venir en aide aux démocraties, parce que quand même ce sont pas deux démocraties qui se font la guerre. Je veux dire, on a quand même un régime en face que l'on sait être dans la filiation d'une logique totalitaire et où on sait que les opposants, les premiers opposants, les oligarques. Moi, je suis étonnée, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, les oligarques russes, dites-donc, ils deviennent suicidaires. C'est fou quand même. Voilà. Ils culpabilisent. Donc, ils se suicident. Plutôt que d'agir, les oligarques, hein, c'est les grands, hein, les premières fortunes russes, pouf, ils se suicident tous en ce moment. C'est dingue la vie quand même. Voilà, donc ça interpelle quand même. C'est-à-dire aussi quel type de régime on envisage pour l'humanité demain. Ça aussi, ça. Voilà. Oui.
Et puis aussi, je trouve que c'est quand même schizophrène. On se dit démocrate, mais les États-Unis, c'est quand même le plus gros vendeur d'armes.
Oui.
Et ce que disait, j'écoutais un débat là sur quelle radio, France Culture, je crois, où il disait qu'on devient schizophrène. On ne peut pas non plus défendre ses points de vue, parce que d'un côté, on dit on est démocrate, etc. Et de l'autre côté, on vend des armes. À un moment donné, c'est incohérent. Et ça aussi, ça participe à l'incohérence du monde, quand même.
Mais je ne sais pas si la démocratie est pacifique. Je veux dire, la démocratie, si on est sur le jeu, échiquier politique actuel, les démocraties, elles doivent rentrer dans des logiques de rapport de force. Hein. Ça doit pas être non plus des, enfin la démocratie, c'est pas, ça doit pas être un pouvoir d'ange. C'est ça le drame, parce qu'effectivement, ça pose des logiques contradictoires entre politique et morale et éthique. C'est clair. C'est clair. Oui.
Oui, je voulais faire deux commentaires. Le premier, c'est sur la compétitivité. Parce que même dans des sociétés très compétitives, si on reste qu'avec la compétition, on ne peut pas survivre, en fait. Parce qu'il y a des autres types de relations dans toutes les sociétés. Et je trouve que la meilleure, c'est la relation entre parents et enfants. On n'a pas, normalement, on n'a pas de relation compétitive avec nos enfants. C'est la générosité, c'est le partage. Et si ce type de relation, on ne peut pas survivre. Les sociétés ne peuvent pas survivre. Donc, il faut considérer des autres types
des interactions. Désolé, mon français n'est pas top. Et l'autre commentaire qui est, c'est précisément parce que je suis pas française, je suis étrangère et je suis d'Amérique latine. Et moi, je suis ici et je me pose la question et sur les peuples européens. Est-ce qu'ils sont conscients des conséquences qui puissent donner si l'Europe s'implique dans la guerre, soit dans les combats, ou soit en donnant des armes à l'Ukraine. Parce que c'est armé un pays. Et peut-être plus tard, ça, c'est pas une très bonne idée, armer un pays qui est nos voisins. Qui est notre voisin.
Ah oui.
Oui. Et donc, vous avez peut-être déjà parlé de ça, la mémoire, qu'est-ce que la guerre a fait. Et je reviens pour mon premier commentaire. À mon premier commentaire, quand on réfléchit sur les conséquences de la guerre, peut-être c'est bon de penser à nos enfants. Qu'est-ce qu'on vous laisse? Quel monde on vous laisse pour nos enfants? C'est bien toujours de revenir à ces points.
C'est bien. Oui, c'est sûr. Oui.
Moi, je voulais revenir sur ce que disait monsieur là-bas sur le fait que est-ce qu'on est toujours condamné à être toujours en guerre? J'ai l'impression qu'il y a eu un déplacement où. Dans l'histoire de l'humanité, si on remonte beaucoup, c'était plutôt les individus qui entraient en conflit directement avec un autre, ils n'étaient pas contents, ils tuaient leurs voisins, ou des choses comme ça. Alors, justement, apparemment, à l'époque, il y avait beaucoup de violence quand même, où les anthropologues avaient retrouvé des corps datant de milliers d'années qui étaient morts parce qu'ils avaient eu une lance dans le dos, quelque chose comme ça. Donc il y avait cette forme de conflit. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, justement, ces types de conflits-là ont été déplacés à l'extérieur par l'État, justement. Il y avait une tierce personne qui était censée juger, faire la police et tout ça. Donc c'était plus les individus dans la société qui géraient eux-mêmes les conflits, genre la loi du talion et tout ça, que justement il y avait ce déplacement pour que les individus n'est pas à le faire, mais que en tant que citoyen, ce soit une tierce autorité en fait qui gère ça. Du coup, le fameux État qui eux finalement peuvent décider de faire la guerre ensemble. Alors après voilà, comment ça se situe? Est-ce que finalement ils peuvent faire la guerre sans les citoyens qui sont censés gérer à la base? Donc je sais pas. Pour moi, il y a cette espèce de déplacement et que finalement, est-ce qu'on fait moins la guerre du fait qu'il y a un État parce que c'est plus la guerre entre individus ou c'est vraiment une autre forme? Enfin, je m'interroge.
Pour revenir sur cette idée-là, je crois que effectivement la constitution des États a été un développement extrêmement important. On pourrait peut-être revenir à Hobbes, c'est-à-dire entre les individus, qu'est-ce qu'on a? On a un état de nature, dit Hobbes, qui pour lui est un état de violence généralisée. Lui, il utilise le terme de guerre. Hein. Il faut attendre Rousseau pour que la guerre soit uniquement utilisée ou centrée sur l'État. Il dit bien, c'est la guerre de tous contre tous. Ça veut dire, en fait, c'est un développement de la violence interindividuelle. Donc, ma vie est constamment en danger. Et donc, qu'est-ce que je recherche en rentrant dans une organisation, c'est-à-dire en m'unissant avec les autres? Je recherche ma sécurité. En d'autres termes, arrêter la guerre. Et donc, cette sécurité, pour avoir cette sécurité, j'accepte de me défaire de mon droit de me faire justice moi-même, la fameuse loi du talion, d'accord, la vengeance en fait, pour accorder ce droit exclusivement à un organe qu'on constitue, voilà, qui est créé, qui est artificiel, qu'est l'État. Et c'est l'État qui a pour tâche de rendre justice. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire de rétablir les relations entre individus, mais ça veut dire aussi être capable d'utiliser la force publique pour contenir l'agressivité individuelle ou la violence propre aux individus. Pour quelle raison est-ce que je ne tue pas mon voisin? C'est pas que j'en ai pas le désir, c'est pas que je ne le veux pas, je ne rêve même que de ça. Mais en fait, ce qui me fait un petit peu réfléchir, ce qui retient mon bras, c'est la sanction qui va s'en suivre pour Hobbes. Donc c'est cette force, cette toute puissance de l'État qui contient en fait la violence au sein d'un État. Par contre, ce qui est vrai dans l'État n'est plus vrai entre les États. C'est-à-dire, Hobbes constate que si on a réussi à résoudre l'état de nature à l'intérieur de l'État, c'est-à-dire entre les individus, on a un état de nature entre les États. Et c'est bien pour ça que la guerre n'a pas de règles, elle n'a pas de limites, c'est un déferlement de violence. Et donc, comment faire, en fait, pour ne pas entrer en guerre? La réponse de Hobbes, j'ai envie de dire, elle est double. Premièrement, une armée de métier. Parce que moi, en fait, j'ai pas signé mon pacte social pour aller faire la guerre. Donc, qu'il y en a qui se fassent payer pour aller se faire tuer pendant que moi, je reste tranquille à la maison, ça, c'est une chose. Parce que la guerre semble quand même inévitable. Second point, les rapports de force. C'est-à-dire être un État suffisamment puissant pour que mes voisins n'aient pas envie de venir, justement, me conquérir. Parce que le problème de la guerre, c'est qu'elle se pense quand même à la base toujours comme guerre de conquête. C'est-à-dire on vient prendre ce qui est à moi. Et donc le but, c'est de pouvoir montrer que je suis suffisamment fort pour pouvoir me défendre. Alors, j'ai envie de dire, dans l'histoire des idées, le dernier point qui me semble peut-être le plus important, c'est le point kantien. C'est-à-dire Kant dit, ben, de la même manière qu'on a réglé l'état de nature au sein des États par le droit, il faut régler l'état de nature entre les États par un droit international. Voilà. Et donc, effectivement, il faut penser une organisation internationale qui, pour Kant, ne doit pas être un État, parce qu'il y a toujours le risque de la dérive d'un régime autoritaire, on pourrait dire aujourd'hui totalitaire, mais une fédération d'États qui contraigne chaque État à respecter un droit international. Donc, il y a une évolution. Dans l'histoire pour Kant, qui fait que les guerres, elles sont là, mais peut-être qu'elles perdent leur raison d'être. Et ça me semble intéressant. C'est-à-dire, est-ce que ça fait toujours sens aujourd'hui de rentrer dans une logique militaire en vue d'aller conquérir des territoires? C'est quand même ça, ce à quoi on est confronté. Est-ce que ça fait toujours sens? C'est-à-dire, effectivement, la guerre est déclarée, il y a des objectifs d'acquisition de territoire qui sont très clairs, il y a des objectifs en vue de défendre un territoire qui sont très clairs, donc on voit bien la manière par laquelle chacun se positionne, on voit bien qu'on est déjà dans des logiques de massacre, donc voilà, on voit bien que même si on s'interroge, ça choque notre conscience morale. C'est bien pour ça qu'il y a un immense élan de solidarité auprès des Ukrainiens. Il y a quand même le traumatisme de l'après-Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut participer ou regarder sans bouger un peuple peut-être être en train de se faire exterminer sous nos yeux, quoi. Moralement parlant, c'est violent. Donc ça veut dire que la conscience morale, elle se déploie, et la question est, de toute façon, comment cette guerre peut-elle aussi se terminer? Parce qu'il y a peut-être des guerres justes, mais pour qu'une guerre soit juste, encore faut-il qu'elle aboutisse aussi à une restauration de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, on aboutit à chaque fois à une restauration de la justice? Est-ce qu'il n'y a pas une perte au final? C'est-à-dire une pure et simple constatation d'une situation qui a été fondamentalement injuste, dans laquelle la réparation... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore avoir une logique de réparation de guerre? Voilà. C'est toute la question du droit de la guerre. Quand le droit de la guerre est respecté, effectivement, on peut parler d'une réparation qui peut être faite à quelqu'un. C'est la même chose entre des individus. Quand je vais devant un tribunal, j'ai été lésé par quelqu'un, ben j'espère bien avoir ou obtenir réparation de la lésion, de l'injure qui m'a été faite. Mais lorsqu'on est confronté à l'innommable, lorsqu'on est confronté à l'injustice la plus radicale, lorsqu'on est confronté à l'inhumain, est-ce qu'il y a encore réparation? Donc à partir de ce moment-là, la question, je crois, c'est simplement, faut-il entrer en guerre? Et est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça fait encore sens de parler de guerre simplement juste? Non pas parce qu'elle ne serait pas porteur d'un idéal de justice, mais parce que de toute façon, la guerre aujourd'hui, peut-être qu'elle ne peut aboutir à rien. Si la Syrie avait peut-être pour tâche de nous apprendre quelque chose, c'est peut-être ça. Si l'Irak avait peut-être pour tâche de nous apprendre quelque chose, c'est peut-être ça. C'est-à-dire, il faut peut-être aussi aujourd'hui penser que les différends que les humains ont entre eux, ça va demander à se voir gérer autrement que par la guerre, parce qu'aujourd'hui, en temps de guerre, peut-être qu'il n'y a plus ni vainqueur ni vaincu. Enfin, c'est plus personne, quoi. Vous voyez ? Oui ?
Oui, je voulais interroger la question des réparations, parce qu'on sait très bien que les réparations qui ont été exigées de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale ont été absolument contre-productives et ont joué un grand rôle dans la montée du nazisme et dans le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale et surtout dans l'extermination des Juifs. Donc, les réparations, c'est quand même, je pense, une notion à manipuler avec énormément de précautions.
Mais c'est pour ça que sur la fin de la Première Guerre mondiale, la der des der sur la guerre des tranchées, est arrivée cette idée d'innommable, d'horreur, etc. C'est-à-dire, je crois que le XXe siècle nous a appris justement que les guerres ne conduisent plus à rien. Et que penser, parce que la logique de la réparation, c'est une pensée 18e-iste, 19e-iste, mais j'ai presque envie de dire, on a toujours une guerre de retard, quoi. Tout à fait, ouais. Oui.
Moi, je crois qu'effectivement, dans l'histoire, on nous dit qu'il faut absolument apprendre la guerre de 14 et la guerre de 40 pour plus jamais ça. Total, on constate que ça se reproduit indéfiniment et à jamais, et ça prend des formes très différentes. Donc, il y a des États qui sont des guerres psychologiques, des guerres économiques, mais la guerre existe toujours. C'est-à-dire que l'expérience du passé ne sert strictement à rien quand on voit ce qui se passe effectivement maintenant en URSS. Et pourtant, Poutine, avec Staline et compagnie, ça aurait dû être une bonne leçon. Et on l'apprend dans les bouquins. En fait, ça ne sert à rien, parce que l'homme est l'homme. Et je crois que pour essayer de progresser, il faut revenir aux fondamentaux de qui on est dans notre cœur. Parce qu'on parlait de compétition, la compétition, mais il y a surtout aussi la comparaison. Et ça, ça commence à l'école et partout. Et ce n'est pas l'éducation qui peut changer ça, parce que les gens qui éduquent ont le même système en eux. Et on fonctionne comme ça, parce que notre psyché est construite comme ça. C'est sa nature et sa structure. Donc il faut vraiment voir effectivement la genèse de ce truc est transformée complètement ça. C'est le challenge de l'ère qui arrive, de toute façon. C'est une transformation totale de notre façon de nous présenter au monde et de voir les choses. Les pays et les États, en fait, c'est une division. C'est-à-dire que quelque part, ça entretient la guerre et le conflit. Alors on se protège, mais le fait de se protéger, ça crée une division. Le prochain est un ennemi potentiel. Donc voilà, donc la création même des États et des pays a entretenu cette division. Par souci de protection, mais c'est tout l'inverse qu'on obtient, en fait. C'est du conflit. Parce qu'il faudrait effectivement qu'il n'y ait pas toute cette division en tranches de saucisson, et puis une gestion complètement différente des choses, parce qu'on renforce l'insécurité en se protégeant, quelque part.
Une logique beaucoup plus grande de partage, de solidarité.
Oui, sans jugement, de tout égal à égal. Ouais. Enfin, une autre vision de l'être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui est pareil, quelle que soit sa nationalité, enfin, le même être. Quoi. Mm-hmm.
Alors, mais du coup, qui va l'instaurer ?
Il faut une prise de conscience, à mon avis, d'un groupe de gens qui aillent dans ce sens-là et qui proposent et qui montrent en tout cas que le fait de créer un groupe à part, parce que même dans les sociétés, les groupes, le groupe machin est contre le groupe truc, ça existe à tous les niveaux. Et en fait, ça renforce le... Donc c'est de se dire, ça sert à rien de se réunir en groupe, tout ça, parce qu'on a les mêmes idées, parce que fatalement un jour, ça sera nos idées contre celles du voisin. Donc il faut être très très vigilant à ça. Et en fait, c'est une prise de conscience.
Alors, ça a été l'idée de la Révolution française. Ouais, Révolution française a dit, oh là, vous voyez, les corporations, c'est dangereux. Voilà. Les conseils régionaux aussi, donc les tribunaux régionaux, c'est dangereux. Il faut qu'il n'y ait, entre l'État et le citoyen, aucun organe intermédiaire. Parce que justement, les organes intermédiaires, ça divise. Voilà, et ça oppose. Donc, on a tout détruit. Ce pourquoi aussi, on dit à l'heure d'aujourd'hui qu'on vit dans des sociétés qui sont très individualistes. Mais si on se replonge dans les écrits de Robespierre, c'est voulu. C'est-à-dire, l'individu, au moins, est libre parce qu'il n'appartient à aucun groupe. Donc, il n'est ni influencé, ni manipulé. Voilà. Il est capable de penser par lui-même. Il est citoyen, apte à élaborer la volonté générale, si on veut revenir chez Rousseau. Chez Rousseau, il n'y a pas d'organe intermédiaire non plus. Si vous prenez Tocqueville, Tocqueville dit « d'accord, mais au final, c'est le fait de détruire les corporations, donc les groupes, vous créez un individu qui est seul, effectivement, qui n'appartient à aucun système donné, aucun système corporatiste, mais à partir de ce moment-là, en fait, vous créez un isolement encore plus grand. C'est-à-dire, les gens deviennent, sont des îlots indépendants les uns des autres, en fait, sans lien les uns avec les autres, ce qu'on peut un peu connaître dans les grandes villes, hein, où c'est difficile des fois de connaître même ne serait-ce que son voisin de palier. Donc, l'essentiel, c'est que autrui ne vienne pas empiéter sur ma liberté, et à partir de ce moment-là, je ne viens pas empiéter sur la liberté d'autrui. Donc, il y a une forme d'indifférence. Et Tocqueville dit, en fait, ça instaure quoi ? Ça instaure ce qu'il va nommer le despotisme doux. C'est-à-dire, ceux qui vont prendre des décisions sont à la tête de l'État, et ceux qui sont en dessous, en fait, ils vont simplement suivre ce qu'on leur impose sans réfléchir plus que ça. Et donc, c'est une nouvelle forme de despotisme. Oui.
On
ne
peut pas changer. C'est donné. C'est de voir à l'œuvre cette façon d'être.
Et voilà.
Cette façon, elle était totale.
Oui.
Et c'est en le voyant objectivement qu'on commence à comprendre les choses.
Et c'est peut-être le groupe qui va aider justement à ça. Un groupe qui se construit, voilà, sans jugement, en acceptant l'autre tel qu'il est, etc. Donc c'était. Voilà. Ouais. Oui.
Oui. Alors moi, si vous voulez, ça, je suis bien d'accord que. Notre culture nous permet de voir les choses comme ça, de penser liberté, de penser décision. Mais je me pose tous les jours la question comment M. Poutine en est arrivé là, parce qu'en fait, il ne pense pas du tout comme nous, mais il a aussi formaté son pays. J'ai entendu des informations, sont-elles vraies, mais... Je pense qu'on peut y croire qu'à partir de 8 ans, les enfants ont des formations guerrières. On leur donne une Kalachnikov, pas une vraie, mais voilà, pour qu'ils s'entraînent à la guerre. Donc à partir du moment où on forme le cerveau humain dès le jeune âge à une forme de pensée guerrière et combattante, et pas du tout dans une logique comme nous avons en Europe, c'est plutôt là comment peut-on intervenir par rapport à ça, parce que entre nous, on peut toujours trouver de la solidarité, même vis-à-vis des Ukrainiens, mais comment accepter qu'on puisse détruire une ville avec tout son patrimoine, enfin tout un pays avec son patrimoine, sous prétexte que c'est pas ce pays-là, il est à Monsieur Poutine, enfin à la Russie. Est-ce que détruire quelque chose qui est à soi, c'est normal, mettre des mines, des bombes, etc. Et en fait, l'intérêt, c'est quoi économiquement ? Ça ne lui rapporte pas et ça ne lui rapportera pas plus d'avoir un terrain. Voilà, mais en attendant, c'est l'esprit et l'état d'esprit qu'il faudrait changer. Et ça, c'est une histoire de culture et on ne va pas changer tout de suite, là, nous-mêmes, la culture russe. Enfin, il y a certainement une culture qui est plus libre que ce qu'on voit, mais les gens sont quand même plus manipulés. Et donc, à partir de là, comment faire évoluer un pays autrement que par la force, qui s'exprime par la force, quoi.
Donc, quel type d'intervention mettre en place, en fait ? Parce que, intervention, il y a. Alors, c'est vrai que l'Ukraine a toujours été considérée comme le grenier à grains de l'Europe. Donc, sont des terres extrêmement riches. Hein. C'est la Beauce fois 100, je crois. Voilà, donc ceci explique et peut expliquer cela. Oui. Oui. Il marche pas.
Ah,
Voilà, pardon.
Voilà.
Tout à l'heure, quelqu'un a réfléchi en disant mais il faut se ramener au cœur. Moi, je suis un peu perturbé à ça parce que, en fait, il y a le cœur et la raison. Et le cœur, c'est pour moi, c'est le danger. Il n'y a rien de pire que le cœur parce qu'en fait, c'est la foi, c'est la religion. Credo cui absurdum, enfin, c'est ce qu'il y a dans mon cœur et c'est ma vérité. Et la vérité, ça peut être, bah, c'est la démocratie, la vérité. Il y en a d'autres qui peuvent dire c'est l'empire. Les chiites, ils disent bah, c'est mon interprétation du Coran et c'est pas celle des sunnites. Et en plus, les sunnites, vous avez assassiné mon prophète. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on ramène au cœur, on pense toujours le cœur à intelligent, juste, etc. Bah, pas du tout. C'est vraiment ce qu'on ressent, c'est vraiment un élément de raison qui doit dominer. C'est pas le cœur qui est la solution pour le futur, c'est plutôt une raison. Alors, qu'est-ce qui définit la raison, c'est pas évident non plus, surtout au niveau des États, puisque vous avez effectivement dépassé au niveau, à l'intérieur de l'État, au niveau entre les États. Donc, il n'y a rien qui a été créé aujourd'hui qui définit c'est quoi la raison entre les règles de raison entre les États, et d'ailleurs, qu'est-ce qui définit la justesse d'un État, est-ce que c'est un peuple, est-ce que c'est une histoire, etc. Donc, en fait, pour dépasser le phénomène des guerres, et parce que c'était la question que vous posez, que posait en tout cas Kant, hein, si j'ai bien compris, pour dépasser cet aspect-là, quel système il peut être créé pour qu'il n'y ait pas de guerre? Donc, j'ai entendu l'armée de métier, sauf que l'armée de métier, c'était à l'époque des Romains, c'était une armée de métier. Ça faisait des conquêtes partout, donc c'est pas la solution. Alors, en tout cas, ça n'a pas été la solution à un moment donné. Mais en tout cas, quels sont les éléments de raison qui permettraient de définir les règles entre les États? En tout cas, l'ONU, ça ne marche pas. Ça, clairement, ça ne fonctionne pas. Donc, en plus, il y a 5 membres permanents qui décident de c'est quoi les bonnes règles du monde, ce qui est un peu contestable, d'ailleurs. Puisque c'est les vainqueurs de 45, en fait, ces vainqueurs.
Ouais.
Oui, c'est les vainqueurs de la guerre, exactement.
Oui.
Oui, je voulais revenir plus au niveau individuel et prendre l'exemple de la Suède, qui est un pays neutre. Et c'est aussi un pays, quand on visite, on est frappé par la douceur des gens, par l'attention qu'ils accordent à l'autre. C'est un pays vraiment où il y a très peu d'agressivité. Et j'avais interrogé un de mes amis qui est hongrois d'origine et qui vit en Suède depuis très longtemps sur les raisons. Et il m'avait dit, j'ai longtemps cru que la culture permettait d'aboutir à ça. Et il me dit, c'est pas ça. Parce que la culture est beaucoup plus poussée dans l'éducation nationale en Hongrie qu'en Suède. Alors, l'éducation des enfants en Suède, la culture, c'est plutôt négligé. En revanche, dès l'école maternelle, on apprend aux enfants à décider par consensus et par recherche de consensus. Et il faisait vraiment un lien avec cette éducation à la recherche de consensus, la douceur qu'il y a entre les gens et la neutralité du pays. Alors, il disait aussi que ça avait des inconvénients, parce que quand il faut prendre une décision en urgence, ben, on n'arrive pas à la prendre, parce qu'il faut quand même le temps de la recherche de consensus. Mais je pense que c'est une piste intéressante.
Oui.
Et
monsieur Léon,
il dit à 18 ans que la guerre arrache un maximum de dauphins. On a sa majorité quand on a descendu un maximum de dauphins dans la bande.
Tout n'est pas parfait. Mais par contre, peut-être aussi que c'est la voie à suivre, parce qu'en fait, c'est quoi l'apprentissage du consensus? Et je terminerai peut-être là-dessus. C'est l'apprentissage de la démocratie. Donc, on a à la fois les avantages de la démocratie qui veut ne pas être un système de domination. Donc effectivement, ce sont pas les plus forts qui décident, c'est pas la majorité qui décide. On trouve, ou en tout cas on essaie de trouver un consensus entre tous. Ça développe quoi? Peut-être un élément extrêmement important qu'elle écoute. Voilà. Apprendre à écouter l'autre dans sa différence. C'est-à-dire, l'autre, c'est celui qui ne pense pas comme moi, qui ne ressent pas comme moi, qui ne voit pas les choses comme moi. Et encore une fois, comme nous sommes tous toujours convaincus d'avoir raison, mon point de vue est le bon, j'ai envie de dire par définition, ça s'apprend de voir que si le mien n'est pas nécessairement mauvais, celui de l'autre, l'autre n'a pas nécessairement tort. Et donc que l'intelligence, elle est peut-être plus riche collectivement qu'individuellement. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que ça a tous les inconvénients de la démocratie. C'est-à-dire, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça demande des logiques de processus, c'est lourd, voilà, on parle souvent, nos institutions, elles sont lourdes, voilà. Effectivement, ça demande aussi à ce que les règles ne soient pas changées tous les quatre matins. Donc, il y a un ensemble de règles qui se doivent d'être respectées parce qu'elles sont garantes du processus démocratique. Voilà. Alors, du coup, il me semble que ce vers quoi se dirige Kant, c'est de dire ce mode d'apprentissage de vie en démocratie, il est temps que l'humanité apprenne à la vivre au niveau, en fait, international, c'est-à-dire à un niveau interétatique. Et en même temps, la nécessité, il me semble, qui est celle de garder les États, c'est que ça garde des voies individuelles. C'est-à-dire, ce qui peut être vrai dans une classe, chaque enfant a la possibilité de s'exprimer soi-même, doit être vrai, en fait, des groupes que représentent les États et dans lesquels, effectivement, chaque État doit avoir sa voix. Une voix et rien qu'une voix et pas plus qu'une, une. Une voix, voilà. Et c'est là où, je ne sais pas si l'ONU dysfonctionne totalement, quoi. L'ONU tourne, la difficulté est que souvent au niveau des informations, on a l'information immédiate, on a l'information en continu, mais il manque quand même cette information d'investigation qui nous apprenne la manière par laquelle fonctionne l'ensemble de nos institutions européennes, par exemple, internationales au niveau de l'ONU, mais il y a aussi un très grand nombre d'organisations autres qui fonctionnent au niveau international pour réguler le commerce, etc. Il y a des accords qui sont faits entre un certain nombre de pays et pas d'autres, dont en fait nous sommes ignorants. Et là, il est bon aussi, en parlant en termes de culture peut-être, d'avoir ce savoir-là qui est le savoir de notre présent. Voilà. C'est bien d'avoir le savoir de notre passé, mais c'est aussi essentiel de savoir comment fonctionne le monde dans lequel nous évoluons. Et à partir de là, je crois qu'il ne faut pas être angélique, c'est-à-dire la politique est et restera toujours des rapports de force, malgré tout. Mais c'est dans ces rapports de force que peuvent aussi se trouver les consensus qui amèneront l'humanité demain vers un monde qu'on peut espérer meilleur. Par quoi ? Ben, je crois par une réalisation du droit. Et pourquoi ? Parce que le droit, ce qui commande dans le droit, c'est la loi. Et l'adage premier et fondamental, c'est que nul n'est au-dessus des lois. Et à un moment donné, si certains peuvent s'en croire, peuvent se croire être une exception ou peuvent se croire exemptés de la loi, c'est à la loi de leur rappeler que nul n'est au-dessus des lois. Et pour cela, il faut effectivement des institutions qui posent ce qu'il en est de loi générale, s'appliquant à tous et choisies par tous au sein de décisions. Alors, c'est sûr que c'est pas acquis. Maintenant, je pense que c'est en cours de construction. Encore une fois, je pense que les logiciels sont en train de changer. On pense toujours politique. Je crois que de plus en plus aussi dans ces types d'institutions, il va falloir penser à inscrire la société civile. Dans les logiques internationales, on le voit par exemple avec le problème des GAFA, on arrive enfin à mettre en place internationalement un impôt touchant l'ensemble de ces entreprises mondiales auxquelles elles se soumettent au final relativement bien. La justice, elle est aussi là. Elle est au fait de ne pas avoir de lieu de non-droit ou la mondialisation aujourd'hui faisant que si je ne suis pas content à tel endroit, ben je peux aller à tel autre. Donc il faut quoi ? Il faut une entente mondiale. Et je pense que c'est ce que l'histoire actuelle nous demande de mettre en place, tant au niveau territorial, mais aussi au niveau écologique, mais aussi au niveau social. Voilà. Les guerres ne sont pas que militaires. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.
Françoise. C'est juste pour vous dire qu'on n'empile pas les chaises de couleur, on les laisse poser comme elles sont. Hein, voilà. Donc, voilà.